Appelez Bruno au 01 43 73 36 36 ou sur bestfenêtre.fr. Best Fenêtre, certifié RGE Calibat pour profiter des aides de l'État. Alors n'oubliez pas, la qualité, les plus grandes marques au meilleur prix, c'est chez Best Fenêtre.
Bonjour, c'est Bernard Amboif. Retrouvez Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive, tous les vendredis après-midi à 16h30. Avec Rav Eli Lemel, Rav Mandechai Bitton, Rav Guy, tous les vendredis après-midi sur Radio Shalom, Kabbalat Shabbat à 16h30.
Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM.
Très bonne soirée à l'écoute de Radio Shalom, il est 18h.
Radio Shalom, le journal vous est présenté par Bernard Abouaf.
Bonsoir à tous. Le ton ne cesse de monter entre Israël et l'Iran. Selon certaines informations publiées notamment par NBC, les Israéliens sont prêts à une attaque dans les jours qui viennent. Le président iranien défie de son côté l'Agence internationale pour l'énergie atomique et il répond : nous reconstruirons nos installations même si elles sont détruites. La presse israélienne de ce matin a affirmé qu'une attaque est imminente. L'eurodéputé Rima Hassan a embarqué pour la France après 3 jours de détention en Israël. Elle aurait pu rentrer hier, elle a refusé de signer un document. Elle rentre ce soir. Normalement, elle sera à 20h à Paris avec 5 autres militants de différentes nationalités qui, comme elle, étaient sur le voilier Madeleine. Le ministère syrien de l'Intérieur a condamné une incursion nocturne des forces israéliennes dans le sud de la Syrie. Il accuse Israël d'avoir tué une personne et d'avoir enlevé 7 autres personnes. La Fondation humanitaire de Gaza, qui est chargée par Israël de distribuer l'aide humanitaire, accuse le Hamas d'avoir attaqué un bus transportant ses employés locaux, tuant 8 personnes et en blessant grièvement 21 autres, avant d'empêcher leur prise en charge médicale à l'hôpital Nasser de Khan Younes. L'incident s'est produit alors que le bus se dirigeait vers des sites de distribution d'aide de l'organisation et le Hamas a fait en sorte que celle-ci ne puisse avoir lieu, affirme la fondation américaine. Un passager de Boeing, du Boeing d'Air India qui s'est écrasé a été retrouvé vivant selon plusieurs médias indiens, dont notamment The Economic Times ou encore India Today, un avion dans lequel se trouvaient 242 personnes à bord. Et puis la police israélienne a annoncé le déploiement de 1400 policiers en uniforme et en civil, ainsi que des combattants de la garde frontière, des volontaires aussi, pour la Gay Pride de Tel Aviv qui est prévue demain entre 11h et 19h. On part tout de suite pour Jérusalem, on le retrouve notre correspondant parlant Dror Even Sapir. Bonsoir Dror.
Bonsoir.
Dror, alors il y a eu des élections, il y a eu une, oui, des élections, en fait, bon, un homme, une voix, mais c'était à la Knesset cette nuit, pour faire tomber le gouvernement ou pas. La proposition vient plutôt des rangs de l'opposition, mais les religieux avaient dit, on vous prévient, bon c'est les psychodrames qu'on connaît, on vous prévient, on va voter avec l'opposition si vous faites pas des compromis pour la conscription, c'est-à-dire le service obligatoire, pour les élèves des yeshivot, des écoles talmudiques, et donc pour les jeunes qui sont les plus religieux, et au final, les religieux, qui n'ont strictement rien à voir, évidemment, avec Yair Lapid, avaient dit, on va voter avec lui, on va faire tomber le gouvernement. Excusez-moi, je fais pas le boulot à votre place, Dror, mais finalement, par une voix, c'est souvent comme ça avec Knesset, par une majorité de 61 voix, le gouvernement n'est pas tombé. Donc, au-delà de ce que je viens de dire, de quoi parle-t-on? Quel est le sujet? Qu'est-ce qu'ont obtenu les uns et les autres? Est-ce que c'est un peu un... Est-ce que vous, avec votre expérience parlementaire, vous dites, bon, Bernard, c'est un peu... Ça va, on les connaît. Ou est-ce que non, il y a quelque chose qui a avancé? Parce que moi, en voyant les choses, j'ai l'impression quand même que les orthodoxes ont bougé, finalement. Ils ont accepté que pas mal de milliers de jeunes rejoignent l'armée.
C'est une manière d'interpréter les choses. C'est celle, bien évidemment, du gouvernement. Et de Yuri Edelstein, le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Mais il faut bien comprendre que tous les députés des partis orthodoxes avaient voté avec l'opposition l'année dernière, eh bien, le gouvernement ne serait pas tombé véritablement, puisque il s'agissait d'un vote préliminaire pour la dissolution de la Knesset. Il aurait fallu encore trois lectures, trois votes pour que la loi soit véritablement et définitivement adoptée. Et entre ces différents examens de cette loi sur la dissolution de la planchette, il se serait passé probablement beaucoup de temps, notamment les congés parlementaires entre la session parlementaire d'été, l'actuelle, et la session parlementaire d'hiver qui commencera après les fêtes juives du mois de Tishri. Donc, vous voyez, il s'agit de plusieurs mois. Cela dit, tout de même, effectivement, le gouvernement et celui qui le dirige, Benjamin Netanyahou, peuvent s'estimer heureux des résultats de ce vote. Et il y a eu des évolutions dans la mesure où une partie, pas tous, parce qu'il y a une scission au sein d'un des partis ultra-orthodoxes, à savoir le Yadut HaTorah Ashkenaz, puisqu'un ministre a décidé de démissionner du gouvernement. Il s'agit en fait d'une ou deux communautés chassidiques qui refusent absolument tout compromis sur la loi, sur la conception. Cela dit, la plupart donc, des députés ultra-orthodoxes n'ont pas voté avec l'opposition et ont accepté des compromis. Mais les ententes qui ont été obtenues et qui devraient prendre la forme d'une loi sont assez floues. On sait qu'il y a des sanctions qui auront un effet immédiat à partir du moment où la loi sera adoptée, s'il n'y a pas suffisamment de jeunes ultra-orthodoxes qui rejoigneront les rangs de l'armée, mais ce sont des sanctions qui sont tout à fait acceptables du point de vue des autorités rabbiniques de ces milieux ultra-orthodoxes. Mais s'il s'agit d'empêcher les jeunes d'obtenir un permis de conduire, de sortir du pays ou d'obtenir des subventions pour entamer des études universitaires, ce sont trois domaines finalement dans lesquels les autorités rabbiniques, les milieux ultra-orthodoxes n'ont pas véritablement d'opposition à ce qu'il y ait des sanctions autour de ces trois domaines, puisque au contraire, des jeunes ultra-orthodoxes qui ne peuvent pas sortir du pays, qui ne peuvent pas obtenir un permis de conduire et qui ne peuvent pas entamer des études universitaires, ce sont des jeunes ultra-orthodoxes qui restent dans le giron de leur communauté respective. Il y aura les sanctions plus sérieuses, un peu plus sérieuses, mais qui sont en fait des annulations d'un certain nombre d'avantages dont bénéficient les orthodoxes si, au bout de 6 mois et puis au bout d'un an, les quotas qui seront prévus par la loi, à savoir un nombre minimum, plusieurs milliers de jeunes orthodoxes qui devraient rejoindre les rangs de l'armée, si ces quotas ne sont pas atteints. Donc, bien évidemment, on réalise, lorsqu'on prend connaissance de ces dispositions, qu'on peut tout à fait aboutir à une situation où très peu de jeunes orthodoxes décident d'effectuer un service militaire. Et d'ailleurs, les organisations de réservistes ou d'autres qui militent pour l'égalité de chaque Israélien devant la question de l'obligation de servir le pays, eh bien, ces organisations sont vent debout contre les compromis qui ont été obtenus l'année dernière à la Knesset.
Dror Even Sapir, je rappelle que vous êtes l'un des correspondants permanents de Radio Shalom à Jérusalem. Je vous remercie. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Eden Adia nous a rejoint dans le studio. Bonsoir Eden.
Bonsoir Bernard.
Eden, il y a dans un cimetière, il y a une mise en terre d'un corps d'otage en ce moment même.
C'est ça. Hier soir, l'armée israélienne a annoncé avoir récupéré les dépouilles de 2 otages à Gaza, parmi eux Yair Yaakov, 59 ans, originaire du kibbutz Nir Oz. Il avait été tué lors de l'attaque du 7 octobre et son corps avait été emporté à Gaza par les terroristes du Hamas. Sa femme et ses 2 enfants, eux aussi enlevés ce jour-là, avaient été libérés en novembre 2023 lors du premier accord d'échange. L'armée israélienne avait cependant confirmé la mort de Yair qu'en février 2024. Depuis, sa famille se battait pour ramener son corps en Israël et lui offrir des funérailles dignes. Aujourd'hui, même en ce moment, cet enterrement a enfin pu voir lieu. Son fils Yagiv Yaakov, également ancien otage, a déclaré, je cite, « Papa est rentré à la maison, mais pas comme nous le souhaitons. Au milieu de toutes ces douleurs, nous voulons ramasser le gouvernement et l'héroïque armée israélienne et rappeler qu'il reste encore 53 personnes kidnappées qui doivent rentrer. Je sais ce que c'est, j'étais là. » L'identité du second otage retrouvé n'a pas encore été révélée. L'opération a été menée conjointement par Tzal et le Shin Bet dans la région de Khan Younes à la suite d'un interrogatoire mené auprès d'un membre du Hamas.
Merci Eden. Je vous le disais en titre, le président iranien défie l'AIEA. Nous reconstruirons nos installations même si elles sont détruites, dit Massoud Pezeqian. En fait, il réagit aux informations publiées ce matin en Israël. selon lesquels une attaque est imminente sur les installations iraniennes, installations nucléaires. La chaîne NBC aux États-Unis affirme que l'administration Trump a été informée du fait que les Israéliens sont prêts à attaquer sans le soutien de l'armée américaine, en tout cas sans la participation de l'aviation américaine, puisque le soutien américain est toujours évident en termes de satellites ou en termes d'informations. Et donc le président iranien réagit, même s'ils détruisent nos installations avec des bombes, les connaissances et les capacités restent dans nos esprits, dit-il, et nous reconstruirons tout ce qu'ils détruiront, a ajouté Massoud Pezeghian. Rima Hassan a embarqué pour la France après trois jours de détention en Israël suite à l'interception du voilier le Madeleine. Rima Hassan et cinq autres militants ont été conduits à l'aéroport de Tel Aviv en milieu de journée. L'eurodéputé, donc, quatre militants originaires d'Allemagne, Turquie, Pays-Bas et Brésil, qui donc devaient être expulsés entre aujourd'hui et demain, selon l'association israélienne Adala, une association israélienne des droits de l'homme qui les a assistés. Et donc, Rima Hassan devrait être à Paris à 20h. Baptiste André, qui lui est médecin et qui fait partie des premiers expulsés, donc hier, est arrivé aujourd'hui à la gare Saint-Charles, cet après-midi, sous les acclamations d'une foule de plusieurs centaines de personnes. Puis rassemblement de la France insoumise hier à Rouen. Les responsables insoumis se sont surpassés dans le soutien à Rima Hassan, ça c'est leur droit, mais dans la haine. Mélenchon a fait un pas de plus dans la direction de Dieudonné. Il dit, sachez d'où vient ceux qui dénoncent la France insoumise, l'ambassade d'Israël, mais dit-il, ils ne sont pas seuls. Bon, je vous propose d'écouter.
Vous vous dites, mais comment c'est possible? Les voici tous qui utilisent les mêmes formules. La croisière s'amuse, la croisière nous exaspère. Voici des gens qui font des photos. Madame Rima Hassan vient nous vendre du rouge à lèvres et tous ces propos méprisants. Mais la question qui se pose, ce n'est pas leur mépris, mais c'est pourquoi nous méprisent-ils tous avec les mêmes mots? Qui leur distribue des éléments de langage à ces pauvres cervelles fatiguées? Parce qu'ils ne sont pas capables d'en trouver tout seuls, alors qu'ils sont déjà tellement bien payés. Tous ceux que vous avez entendus parler de croisière ont récité des éléments de langage qui leur ont été distribués. Demandez-vous si c'est seulement l'ambassade d'Israël qui leur a donné, ou si c'est pas aussi d'autres. Voilà la vérité. Vous êtes des perroquets, des répondeurs automatiques. Nous vous méprisons. Voilà ce que je veux dire depuis cette tribune à tous ces gens pour avoir parlé comme ça. La croisière. Mais vas-y, risque une seule fois ta vie pour tes propres idées et alors on pourra écouter ce que tu racontes au lieu d'insulter ceux qui sont en train de le faire. Rappelez-vous, jeunes gens. Rappelez-vous de leur nom. Regardez leur vilaine figure. Souvenez-vous que s'ils vous ont menti ce jour-là, c'est que tout le temps ils sont prêts à vous mentir. Tout le temps ils sont prêts à vous bourrer le crâne. Tout le temps ils sont prêts à vous voir baisser les yeux parce qu'ils ne travaillent que pour ça. Qu'est-ce que l'idéologie de la pensée embarquée? Que font ces gens? Ils vous injectent le virus de la soumission. Voilà à quoi ils passent leur temps. Ils ne savent faire que cela. Rappelez-vous d'eux. Rappelez-vous de leur visage et écoutez-moi bien. Ne les croyez plus jamais sur un seul point.
Ah, Jean-Luc Mélenchon hier soir à Rouen. Je disais qu'il fait un pas de plus vers Mélenchon. Oui, il fait du Mélenchon en même temps. Mais vers Dieudonné, je crois que là, c'est même pas qu'il se rapproche de Dieudonné. Je crois qu'il a son propre. Il a son propre truc à lui. Et alors, Alma Dufour, qui est une députée LFI, qui était présente au même meeting. Alors elle aussi, c'est un propos tout à fait particulier. Chaque jour, ils s'en prennent aux musulmans qui ont l'audace de croire en Dieu, dit-elle.
Le capitalisme empêche la majorité des gens de le voir parce qu'il s'attaque à tous ceux qui veulent, qui rêvent, qui proposent un autre monde. Il s'attaque aux écologistes qui sont traînés dans la boue. Il s'attaque aux défenseurs de la justice sociale qui sont des totalitaires. Il nous force à regarder l'existence de l'enfer sur Terre, à Gaza, depuis 20 mois. Et ce n'est pas suffisant. Il faut que chaque jour, ils s'en prennent à la foi des musulmans qui ont l'audace de croire en Dieu, c'est-à-dire qui ont l'audace de croire que quelque chose d'autre existe.
En Israël, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, se moque des sanctions qui ont été prises contre lui, notamment par la Nouvelle-Zélande. Ces sanctions ne m'intéressent pas, dit-il, et il est traduit par Dror, notre correspondant permanent à Jérusalem, mais pour la chaîne I24, donc courtoisie de I24 News.
J'ai dit hier en plaisantant que je ne savais pas ce que j'allais faire de tous mes biens au Royaume-Uni ou de mes comptes bancaires en Nouvelle-Zélande. Dieu merci, je n'en ai aucun. Ces sanctions ne m'intéressent pas. Je n'ai rien à faire dans ces pays antisémites. Donc je n'irai pas là-bas non plus. Ce ne sont pas les pays, mais les gouvernements de gauche de ces pays qui se sont simplement convertis à l'islam à cause de l'immigration musulmane.
Putain. Voilà, donc le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui réagit aux sanctions qui ont été prises contre lui par notamment par la Nouvelle-Zélande. Et c'est vrai que normalement tous ces biens en Nouvelle-Zélande, Mariam, tous ces liens aux Nouvelle-Zélande sont saisis, mais bon, je vois pas trop l'intérêt étant donné que Bezalel Smotrich est pas vraiment un habitué de ce territoire. La Fondation humanitaire de Gaza a accusé le Hamas d'avoir attaqué un bus transportant ses employés locaux, tuant 8 personnes et en blessant grièvement 21 autres, avant d'empêcher leur prise en charge médicale à l'hôpital Nasser de Khan Younes. L'incident s'est produit alors que le bus se dirigeait vers des sites de distribution d'aide de l'organisation. Et donc, selon cette fondation, qui est la fondation américaine qui a été mandatée par les Israéliens pour distribuer l'aide, des terroristes, des hommes armés du Hamas ont ouvert le feu sur les véhicules avant de battre en retraite face à l'arrivée d'une foule qui venait sur les lieux. Le ministère de l'Intérieur syrien a condamné une incursion nocturne des forces israéliennes dans le sud de la Syrie. Il accuse Israël d'avoir tué une personne et d'en avoir enlevé 7 autres. Un passager du Boeing d'Air India qui s'est écrasé à Ahmedabad a été retrouvé vivant, selon plusieurs médias indiens. Moshe Levin est en ligne avec nous à présent. Le grand rabbin Moshe Levin, bonsoir à vous. Monsieur le grand rabbin Moshe Levin, est-ce que vous m'entendez ? Non. On a un petit problème technique, je continue, donc on va le retrouver dans une minute. La compagnie aérienne irlandaise à bas coût, Ryanair, a annoncé qu'elle prolongeait la suspension de ses liaisons avec Tel Aviv jusqu'au 31 août. Elle invoque des raisons de sécurité. À l'inverse, l'aéroport Ramon, qui est à Eilat, dans le sud d'Israël, a inauguré une nouvelle liaison aérienne directe avec Moscou. Un avion de la compagnie russe Red Wings, en provenance de Moscou, s'est posé à l'aéroport du sud d'Israël, marquant le lancement de ce nouveau service. Donc voilà, des nouveaux services d'un côté et des compagnies aériennes de l'autre qui ne reprennent pas du service. Donc le grand rabbin Moshe Levin est en ligne avec nous. Bonsoir, monsieur le grand rabbin.
Bonsoir, mon cher Bernard.
Monsieur le grand rabbin, vous êtes vice-président de la Conférence européenne des rabbins et vous allez nous annoncer quelque chose qui me paraît hallucinant. Peut-être même que c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Vous aviez votre congrès de rabbins qui était prévu dans la ville de Sarajevo.
Oui.
Un ministre décide de demander qu'on ne vous reçoive pas. Vous me dites, hein, si je présente bien les choses. L'hôtel qui a été prévu pour ce congrès à Munich vous annule toutes les chambres. Motif, on ne reçoit pas de génocidaires à Sarajevo.
Tout à fait. En fait, ce ministre a fait une déclaration en disant que, en parlant de l'état génocidaire d'Israël, et puis en disant que pour lui, il est impossible que se tienne cette conférence qui réunit, je le rappelle, non pas des représentants de l'État d'Israël, mais des grands rabbins européens. C'est le comité directeur de la conférence des rabbins européens, avec le grand rabbin de Grande-Bretagne, d'Amsterdam, des grands rabbins d'Allemagne, le grand rabbin de Goldschmidt, bien sûr, et donc des grands rabbins d'Europe. c'est pas prévu que le grand rabbin d'Israël vienne ou autre chose, et encore on est dans le religieux. Jamais on a fait de la politique, mais ils ont dit que la conférence des rabbins européens veut utiliser Sarajevo pour soutenir l'état génocidaire, et donc il en appelle à tous les partenaires de faire en sorte que cette conférence n'ait pas lieu.
Il est ministre de quoi et comment il s'appelle ce ministre ?
Alors, il est ministre de Travail et des Affaires Sociales, et il porte le nom de Eden, alors je vais peut-être pas bien le prononcer, ouais. Mais Delitzsch.
Et alors, voilà. On s'en fout d'ailleurs, parce que vraiment, je crois qu'il y a plus grave que ça. Je n'ai pas de souvenir qu'on ait interdit une conférence de rabbins sur le sol européen, et encore qui plus est à Sarajevo, la Jérusalem des Balkans. Mais même sur le territoire demain Paris. Alors aujourd'hui, ça arrive demain Paris. Et que le pire, c'est que ça marche. Donc vous, par exemple, donc vous êtes un génocidaire avec votre communauté dans le Rhinci, le grand rabbin d'Amsterdam aussi. C'est effrayant ce qu'on entend. C'est effrayant.
Tout à fait. C'est effrayant, c'est dramatique. Et moi, j'en appelle même à l'Union européenne, puisque l'Union européenne, vous savez que la Bosnie-Herzégovine a sollicité l'adhésion à l'Union européenne. Ils ont eu une première démarche qui les a mis comme membres possibles qualifiés, avec des restructurations, et la candidature est étudiée. Mais il ne faut pas oublier que l'Europe a été fondée sur des valeurs. Et parmi ces valeurs, et l'origine, c'est de la lutte contre l'antisémitisme. Un pays qui, aujourd'hui, dit « on ne veut pas des rabbins européens », dans notre ville, eh bien, il n'a pas sa place au sein de l'Union européenne. Et j'attends de la part des dirigeants européens une réaction très ferme à ce niveau-là. Même si, il faut quand même rappeler, et personne ne l'a fait remarquer, que durant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, on se souvient de la 13e division Anshar, qui était sous les ordres du grand moufti de Jérusalem, Al-Husseini, qui a commis des massacres terribles, et cette 13e division qui était la division Waffen-SS. Donc, il y a toujours eu des problèmes, même si c'est vrai qu'on l'appelait la Jérusalem des Balkans, mais pour des raisons politiques, ici, et ce qui est le cas, c'est des raisons politiques, eh bien, de soutien à Gaza, eh bien, on exclut les rabbins européens, en tout cas, ont fait en sorte que la conférence soit annulée. Il nous a pas dit « vous êtes interdits ». Il a demandé à tous les partenaires de faire en sorte que cette conférence n'ait pas lieu, ce qui est dramatique. Je pense qu'il y aura des répercussions. Et l'ironie de l'histoire, c'est que la conférence va se tenir en Europe. Où elle va se tenir ? Elle va se tenir avec le soutien de l'Allemagne, dans la ville de Munich, où le siège désormais du rabbinat européen est à Munich. C'est assez incroyable, mais il a fallu en 5 jours inverser l'ensemble, réorganiser l'ensemble de la venue de cette soixantaine de grands rabbins, journalistes qui devaient accompagner, etc.
Et donc c'est Munich, une ville, elle aussi, historique,
par
et connu pour d'autres raisons, qui finalement vous accueille, on croit rêver. Mais j'ai peut-être mal entendu. Il a dit que ça ne restera pas sans conséquence si jamais ils peuvent venir. Qu'est-ce qu'il a dit ?
Non, moi j'ai dit cette action, elle dépasse bien, elle dépasse largement la ville de Sarajevo. Et c'est une question, et l'Union européenne doit agir avec force. Et ce qui est assez intéressant, c'est que j'attendais une réaction du grand moufti de Sarajevo, que je connais personnellement, qui est le moufti Grabus. Il n'a pas eu de réaction publique. Il nous a juste dit qu'il regrettait que ça ne se passe pas.
Mais moi, je vais vous dire quelque chose que moi, dont je me souviens, parce que j'étais journaliste, pendant la guerre en ex-Yougoslavie, pendant la guerre civile à Sarajevo, c'est la communauté juive qui passait les vivres, qui passait les... parce qu'elle n'était pas concernée par la guerre civile. Et c'est les juifs de Sarajevo qui passaient, quand ils avaient besoin de passer d'une communauté à une autre, des messages, des choses. Et les juifs, eux, ils n'étaient pas dans le conflit national, est-ce que vous saviez, et c'est eux qui ont aidé les gens. Ben c'est bien, on leur a bien rendu la... C'est bien, on leur a
Malheureusement, c'est pas la première fois dans l'histoire.
Ouais. Monsieur le grand rabbin Moshe Levine, le vice-président de la Conférence européenne des rabbins, je vous remercie, bonsoir à vous.
Merci beaucoup et de meilleures nouvelles, on espère.
Amen. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette édition.
Radio Shalom, la radio qui vous écoute.
La radio qui vous écoute.
Le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
Le KKL, c'est la réalisation du rêve de ceux qui ont cru en ce miracle que l'on appelle Israël.
Mais par-dessus tout, le KKL, c'est un amour indéfectible et un engagement pour la terre et le peuple d'Israël.
Faites partie de cette aventure en soutenant le KKL de France.
Faites votre don sur kkl.fr.
La 20e édition du Festival des Cultures Juives. Concerts, rencontres, théâtre, expo, du 15 au 30 juin, découvrez un programme inédit au cœur de Paris. Pour sa soirée d'ouverture, le contrebassiste Avishai Cohen vous donne rendez-vous dimanche 15 juin à 19h dans le cadre intime du Théâtre du Rond-Point pour vivre une expérience musicale inoubliable. Détails et réservations sur festivaldesculturesjuives.org.
Du TGM au TGV, en partenariat avec Radio Shalom, vous propose d'assister aux deux dernières représentations de ce film documentaire qui retrace l'histoire et le ressenti des Juifs tunisiens arrivés en France. Ne manquez pas ces deux dernières séances au cinéma Le Balzac, le mercredi 15 juin et le mercredi 25 juin. Réservation sur www.dutgmautgv.fr. www.dutgmautgv.fr.
Culture juive, ça se défend. Et les CUJ aussi. Soutenir les CUJ, c'est transmettre la richesse des cultures juives, lutter contre l'ignorance et renforcer une vie juive libre, ouverte et accueillante. Les 15 et 16 juin, on compte sur vous pour la première grande campagne d'appel aux dons de les CUJ.
Et votre impact est doublé.
Oui, oui, chaque don compte double.
Double.
Alors rendez-vous les 15 et 16 juin sur allodon.fr/ecuj. Facile, allodon.fr/ecuj.
Ah, je me sens mieux, au calme, au chaud, et puis j'ai vu la différence sur ma facture d'énergie.
Pour moi, c'est le jour et la nuit. J'ai eu l'impression de changer de maison.
Vous avez envie de changer de vie ? Commencez par changer de fenêtre. Depuis 25 ans, la Maison de la Fenêtre vous change la vie en vous apportant plus de confort, plus de lumière et de vraies économies d'énergie.
La pause s'est faite en une journée. Hyper pro !
La Maison de la Fenêtre, certifiée Calibat RGE, 01 42 11 03 03, 01 42 11 03 03.
Bonjour, c'est Greg. Je vous attends chaque mardi soir de 20h à 21h sur Radio Shalom pour mon émission Une question, un spécialiste. Mon équipe de spécialistes répondra en direct à toutes vos questions, chacune et chacun dans leur discipline. Alors à mardi prochain.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Radio Shalom.
On passe tous une période difficile et on pense tous à différents secteurs qu'il faut renforcer dans nos vies, nos familles, Israël. Mais il y a un domaine qui est très important et je crois que tout le monde est d'accord. On doit absolument garder très fort et développer, même c'est notre culture, notre passé, notre histoire. Et ça, c'est le rôle notamment de l'ECUJ, qui est un centre historique de la communauté juive de Paris, une grande maison, avec à ses côtés l'Institut Elie Wiesel de Paris. Et nous sommes en ligne avec Gad Ibgui, qui dirige cette institution. Bonsoir Gad.
Bonsoir Bernard.
Alors, voilà, vous, votre... votre travail, mais j'ai envie de dire quelque part votre réponse aussi par rapport à, oui, à notre contexte aujourd'hui, c'est de faire vivre la culture, de débattre, de faire venir, oui, des grands penseurs sur les CUJ. Expliquez-nous un peu.
Oui, 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 Bernard, vos auditrices et vos auditeurs connaissent les CUJ qui s'appelait il y a quelques années le Centre communautaire de Paris. Ils connaissent le rôle central que cette institution a toujours joué dans notre communauté, comme une sorte d'accompagnement de toutes les mutations de la communauté. Et vous avez raison de dire Bernard, que les Cuges, c'est un lieu, un espace, un esprit de promotion de la diversité des cultures juives et des savoirs juifs dans la cité, dans notre société. Et ça, c'est notre rôle que nous menons au quotidien. Bernard, à la rue Lafayette, vous le savez, mais également en distanciel. Je vais vous donner un chiffre qui va peut-être vous étonner, Bernard. En 2024, il y a 54 000 visiteurs qui ont franchi les portes de l'Écuge, ce qui est assez considérable. Ouais, et comme vous le savez, 2024, c'est évident que c'est également une réponse à cette crise, à cette atmosphère extrêmement anxiogène que la communauté vit aujourd'hui. Et on est bien conscient que le fait de créer des moments, des expériences où les uns et les autres nous nous retrouvons ensemble, mais véritablement pas au travers d'une page Facebook, pas au travers d'un groupe WhatsApp, se retrouver, se regarder, se toucher, se
être ensemble,
étonner,
être ensemble.
S'étonner de croiser des personnes que nous n'avons pas l'habitude de croiser. Tout cela, c'est ce que nous essayons de proposer à l'Écuge depuis maintenant près de 63 ans.
Mais moi je crois que je connais l'Écuge depuis que je suis petit. Je me souviens,
oui,
avant vous étiez boulevard Poissonnière. Je sais, bon, Edmond et Lalouf, évidemment, qui a accompagné toute mon adolescence. Le déj, mais peut-être que je mélange.
Trois générations, c'est impressionnant.
C'est toute la vie juive française.
Tout à fait. Et effectivement, que ce soit avec une programmation artistique et culturelle très diversifiée, un programme d'enseignement autour du Limoud, autour de l'Oulpan. Comme vous le savez, l'Écuge est un Oulpan de référence. Et qui dit Oulpan dit évidemment la langue hébraïque, l'hébreu, mais également dit accès à la complexité et à la compréhension de la société israélienne. Et puis, nous avons également ce formidable programme d'enseignement académique destiné au grand public que propose l'Institut universitaire et divisaire, où là on enseigne l'histoire, la littérature, la philosophie, la sociologie, tout ce que l'on aimerait connaître de notre histoire et de notre civilisation, que nous offrons au travers d'un programme de conférences, d'enseignement, etc. L'action de l'Écuge est extrêmement riche. Elle touche évidemment, je l'ai dit, le culturel, l'enseignement, elle touche la vie juive, puisque c'est un lieu de vie juive, avec un certain nombre de courants du judaïsme qui sont représentés.
Et jusqu'à un festival de jazz.
Et oui, il y a un festival de jazz, mais elle touche aussi l'action sociale, comme vous le savez, on a toujours été un acteur important de l'action sociale dans la communauté, avec beaucoup de respect pour tous les acteurs spécialisés du social, mais l'Écuge intervient à deux ou trois moments clés dans l'année, particulièrement autour de la campagne des paniers de Pessah, vous le savez, et le social, il est présent partout, y compris au quotidien, puisque tous les programmes de l'Écuge sont accessibles aux uns et aux autres à des tarifs très accessibles, et même évidemment celles et ceux qui ne peuvent pas y accéder peuvent, pour des raisons tout simplement de moyens, sont évidemment accueillis naturellement.
Alors vous m'amenez là où je veux aller. Parce que par exemple, si votre institut s'appelle Elie Wiesel, c'est pas un hasard. Moi j'ai vu peut-être des dizaines de fois Elie Wiesel là-bas. C'était le lieu, Lévinas. Monsieur Chouchanik, j'ai pas eu la chance de connaître, mais tous les plus grands penseurs, par exemple les toutes premières idées de Alain Finkielkraut, c'était, bon, il y avait aussi le Centre Rachim, c'était notamment Bernard-Henri Lévy, etc. Toute cette école de philosophes, c'était chez vous à l'Écuge. Et vous venez là de prononcer un mot très important, c'est que vous voulez que ça soit accessible à tous. Alors moi, je vous ai demandé de venir ce soir dans notre journal, parce qu'il faut savoir que si vous n'êtes pas aidé, vous pouvez pas faire ça. Et donc, vous avez décidé de faire appel au public pour renforcer l'Écuge, pour renforcer votre institution, à travers d'un appel à participer pour tous ceux qui le souhaitent.
Exactement, exactement. On lance une grande campagne de soutien à l'Écuge les 15 et 16 juin, c'est-à-dire dimanche et lundi. Dès aujourd'hui, évidemment, la campagne est ouverte avec la particularité que nous avons sollicité un certain nombre de nos mécènes, de nos donateurs, pour leur demander de nous aider à doubler les dons obtenus par les nouveaux donateurs qui nous aideraient aujourd'hui pour doubler l'impact d'un don.
C'est-à-dire quelqu'un qui donne 50 euros, le donateur, qui est un grand donateur, il dit « bon, moi je ne me déplace pas, vous me dites, vous me donnez la somme exacte, moi je redonne 50 derrière ».
Exactement. Quand quelqu'un nous donne 50 euros, c'est comme s'il nous donnait 100 euros et que ça lui coûte seulement 33% de ses 50 euros. C'est-à-dire 15 euros. Ça lui coûterait 15 euros pour peu, évidemment, qu'il soit imposable, puisqu'il va recevoir immédiatement un reçu fiscal qui lui permet de réduire ou de déduire ce don de ses impôts. C'est un mécanisme assez vertueux où il s'agit d'encourager les uns et les autres à faire un don et parce que finalement leur don est a un double impact. Non seulement ça traduit leur engagement pour soutenir les cultures et le savoir, mais ça traduit également leur capacité à abonder ce don par un mécène. On a cette chance-là. Alors, je veux tout de même relever, Bernard, que l'Écuge a aidé. L'Écuge a aidé d'abord par des donateurs qui représentent aujourd'hui et qui permettent de financer près de 30% du budget de l'Écuge. L'Écuge est aidé également par nos partenaires institutionnels que sont le Fonds social ou que sont la Fondation pour la mémoire de la Shoah ou que sont l'OSM, tous ces partenaires qui participent au financement de l'Écuge au travers du soutien à nos programmes, à nos projets que nous leur présentons. Mais il faut admettre que les financements institutionnels aujourd'hui, dans le cadre du budget de l'Écuge, ne représentent que 15%.
Oula, 15%.
Et oui, 15% de notre budget est financé grâce à nos partenaires qui, heureusement, sont à nos côtés aujourd'hui. Mais nous sommes dans un champ très particulier qui est celui de la diffusion des cultures et des savoirs. C'est pas un champ que j'ai envie de dire commercial. Ce n'est pas un champ dans lequel nous gagnons de l'argent. Donc, pour poursuivre nos missions de partage, de diffusion, de préservation de la culture, de sa diversité, également pour proposer des programmes originaux d'inclusion, d'inclusivité autour du handicap, ou même pour soutenir un programme que nous avons lancé dès novembre 2023, qui est le programme Écuge Israélie, sur lequel nous avons très peu communiqué, mais qui consiste à accueillir les Israéliens de Paris dans le cadre d'un programme culturel à l'Écuge, que ce soit au travers des grandes dates de la vie juive, ou que ce soit au travers de cours de français pour les Israéliens qui vivent à Paris. Tous ces programmes-là ont besoin de soutien financier pour exister. Et je veux préciser à nos auditrices et à nos auditeurs que l'Écuge, c'est évidemment un bâtiment qui se trouve au 119 rue Lafayette, beaucoup le connaissent déjà, 1500 m² au service des cultures et du savoir, au service de tous les publics, mais c'est aussi une action extrêmement forte auprès de publics éloignés, auprès de publics qui sont en région, qui n'ont pas d'offres locales, que ce soit autour des cours d'hébreu, autour des conférences qui sont diffusées en ligne, ou autour des cours et des conférences proposées par l'Institut Elie Wiesel qui sont quasiment toutes également diffusées en ligne pour permettre à ces publics partout dans le monde d'accéder à cette connaissance-là. Donc ce rôle, qui est un rôle avec un impact social important auprès de notre communauté, il doit être défendu, particulièrement dans un contexte où l'identité juive est attaquée. Et c'est vrai que nous, on considère aujourd'hui que les cultures juives doivent être plus que jamais défendues valoriser, partager, pour lutter contre l'invisibilisation que l'on veut nous imposer, pour lutter également, Bernard, contre le repli que nous-mêmes nous imposons dans certains cas. Et nous essayons d'affirmer la force d'un judaïsme ouvert, libre, vivant, ancré dans la cité, même si pour certains il est difficile dans cette atmosphère très anxiogène de garder espoir, c'est aussi notre rôle de les accompagner à garder la tête haute, parce que nous n'avons pas à subir ce que l'on veut nous faire subir, et c'est toujours très difficile à entendre et déchirant que certains membres de notre communauté aient à subir le fait de raser les murs dans certains quartiers. Donc c'est déjà difficile, nous essayons de nous battre contre cela, et nous essayons également d'expliquer à tous les publics, qu'ils soient d'ailleurs juifs ou non-juifs, ce que représente l'impact de l'identité juive dans notre pays et de la culture juive dans notre pays. C'est pour ça que c'est probablement essentiel aujourd'hui de défendre l'écuge et de participer à cette campagne de soutien.
Alors on va le faire, donc l'écuge, alors j'explique, c'est très simple, tout le monde connaît maintenant Allodon, on va sur Allodon, tout le monde connaît, Allodon.fr, www.allodon.fr, on cherche écuge,
voilà, écuge.
Non mais même ils ont un petit moteur de recherche, mais sinon on y va directement, slash écuge, E-C-U-G-E, l'écuge quoi, et je veux préciser qu'on peut le faire dès maintenant. Donc
oui,
il faut y penser.
Oui,
tout de suite, on vient, on se dit, tiens, moi j'ai envie d'aider la culture juive, j'ai envie d'aider ce centre, j'ai envie d'aider ma communauté, je peux faire un don tout de suite, donc c'est très important. On a un SERFA qui est automatique, ça aussi c'est bien pratique et important pour tout le monde, parce que on paye tous des impôts, et on peut le faire tout de suite, sinon la campagne en soi, vous allez recevoir peut-être des coups de fil de militants qui sont évidemment des bénévoles, soyez sympas avec eux.
Exactement.
Pour l'écuge. Gadib Guy, vous qui êtes le directeur de cette très belle maison, je vous remercie. Bonsoir à vous.
Merci Bernard. À bientôt.
Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette édition.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Message de Hort France. Chers partenaires, experts comptables, entreprises, en versant le solde de votre taxe d'apprentissage aux écoles Hort France, vous soutenez l'innovation, l'éducation et l'avenir de nos étudiants.
Votre contribution fait la différence. Dès le 27 mai, connectez-vous sur la plateforme Soltea et fléchez vers les écoles du réseau Hort France.
Une question ? Appelez-nous au 01 44 17 30 80 ou rendez-vous sur hort-france.fr.
ORT-France.fr.
Merci pour votre engagement.
La société iCube vous invite à la 89e édition du Salon de l'Immobilier et de l'Investissement qui se tiendra à Paris le dimanche 6 juillet prochain à partir de 10h30 au Centre Européen du Judaïsme, Paris 17e. Vous souhaitez investir, acheter ou simplement en savoir plus sur le marché immobilier ? Venez à la rencontre de promoteurs prestigieux, d'agents immobiliers expérimentés, de courtiers avec des solutions adaptées, des avocats pour vous conseiller. Des nouveaux programmes de qualité à des prix promotionnels très attractifs et des facilités de paiement inédites. C'est le moment de franchir le pas et d'écrire une nouvelle page de votre avenir. Nous vous attendons nombreux le dimanche 6 juillet à partir de 10h30 au Centre Européen du Judaïsme, Paris 17e.
Salut Alexis.
Salut Élie.
Salut Lévana. Salut Fabrice.
Salut à tous. Retrouvez-nous dans Un Contre-Courant sur Radio Shalom en direct tous les dimanches à 18h30.
Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM.
94.8 FM.
On va courir dimanche pour les soldats qui sont tombés au combat et pour les otages. Grâce au Keren Hayesod, il y a une course qui est organisée, Bleu Blanc Run, à Paris. C'est à 10h du matin, il faut être un peu matinal, mais quand on est sportif, on l'est. Et nous sommes en ligne avec Lisa Tillon, qui est la déléguée du Keren Hayesod à Paris. Bonsoir Lisa.
Bonsoir Bernard, bonsoir à tous nos auditeurs.
Alors moi j'adore ce genre d'initiative parce que vous nous demandez de faire quelque chose de sympa, la cause est bonne. Bon, c'est vrai que je ne suis pas sûr d'être le plus rapide.
Mais... Ça demande un peu d'effort physique, mais la cause est bonne.
Mais la cause est bonne. Comment vous est venue cette jolie idée ? Je dis voilà.
Alors, pour tout vous dire, cette idée est l'idée d'une maman, d'un soldat qui est tombé à Berry le 7 octobre. C'est la maman d'Élie Valentin Gnassien, Geneviève, qui tenait absolument à cette course parce que son fils, Élie Valentin, était un grand sportif.
Et il faisait particulièrement le marathon.
C'est ça. C'était un
mais
grand
il
coureur.
Était à Berry parce qu'il était au Festival Nova ou non, vous, en non. tant que soldat?
En tant que soldat des ouais. parachutistes. En tant que soldat des parachutistes, après avoir combattu à Netivot, à Ofakim, il est ensuite arrivé à Berry. Et c'est là, malheureusement, où il a été touché et tué par les terroristes du Hamas. Et donc, à sa mémoire, plusieurs courses ont été organisées en Israël. Et donc, Geneviève tenait absolument qu'il y ait aussi une course qui soit organisée à Paris. Donc, on a beaucoup, l'idée nous a beaucoup touchés, bien sûr. Et avec l'agent juive, on a décidé donc d'organiser une course, pas seulement à la mémoire d'Élie Valentin, parce qu'on a voulu faire quelque chose de plus collectif. Et on a associé malheureusement d'autres soldats francophones qui sont tombés le 7 octobre, enfin, qui sont tombés depuis le début de la guerre, pas seulement le 7 octobre. Donc, on va courir le dimanche 22 juin à la mémoire de 10 soldats francophones. Qui se sont battus pour notre pays, et on va les honorer, on va montrer notre force, on va montrer notre courage de courir entre 2,5 km et 10 km. Ce sera le lac supérieur, et on aura toutes les informations qui seront envoyées à tous les participants une fois qu'ils seront inscrits. On reçoit exactement le plan, le point GPS, où se passe le départ. Il va y avoir un point départ avec beaucoup d'animation, un DJ, bien sûr des t-shirts qui vont être distribués à tous les coureurs. C'est un événement aussi très familial que l'on veut faire. Donc venez avec vos enfants, avec votre famille. Il y aura une animation, donc le DJ sur place. On peut marcher, on n'est pas obligé de courir. Donc pour les moins sportifs, on peut aussi marcher. L'essentiel, c'est d'être là tous ensemble. Il y aura les familles soldats. Et ça leur fait énormément bien de sentir ce soutien, cette présence et cette force, et de sentir que tout un peuple est derrière eux et que toute la communauté juive de Paris sera là avec eux. Ils vont courir. Geneviève, la maman d'Élie Valentin, va courir avec sa fille Chloé. Et donc on espère être très 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 nombreux. Toutes les mesures de sécurité ont été mises en place, donc il n'y a aucun souci à se faire. Tout sera très sécurisé. Il y aura une bonne ambiance avec des viennoiseries, des boissons. Donc voilà.
Magnifique, un bon moment, un dimanche matin comme ça ensemble.
Voilà, un dimanche matin.
Hein, pour donc ce jeune qui est tombé le 7 octobre au kibbutz Berry. Vous donnez une adresse ou vous préférez la donner après inscription?
Alors, on la donnera après l'inscription. Pour s'inscrire, allez vite sur le site du Keren Hayesod. Vous aurez donc le lien pour s'inscrire. Ça coûte 26 € pour les plus de 22 ans et 15 € pour les moins de 22 ans. Pour ceux qui ne courent pas, pas la peine de s'inscrire, mais allez quand même sur le site pour voir les informations, parce qu'on veut, voilà, on veut qu'il y ait un maximum de monde, donc ceux qui ont envie de participer à ce moment ensemble, mais qui ne pourront pas courir, pas la peine de s'inscrire.
Très bien. Par contre, on aura l'adresse dimanche matin, j'imagine, et c'est sur le site internet du Keren Hayesod. C'est très facile pour ceux qui sont dans la voiture de chercher Keren Hayesod. C'est Google qui vous dira où c'est, et voilà, vous cherchez Keren Hayesod avec le moteur de recherche et vous trouvez le site. Eh bien, Lisa, je vous souhaite bonne course.
Merci.
Et
on compte sur vous, Bernard.
Mais oui, alors je vous avoue que moi je viens, mais je ne ferai pas forcément partie de ceux qui vont courir. Mais je veux bien les viennoiseries et le café, j'ai bien entendu.
Allez, ça marche aussi.
Oui, oui.
On vous prend quand même.
Merci, je ferai des photos.
Super.
Lisa Sion du Keren Hayesod, n'oublie pas, hein, dimanche matin, une petite course.
9h30. Dimanche matin, 9h30 l'accueil, et 10h on commence la course.
Et 10h la course, on aura l'adresse. Il faut s'inscrire pour ceux qui courent. Et c'est sur le canal Sud. Lisa Tsion, la déléguée à Paris de cette belle institution. Merci à vous et bonsoir.
Merci Bernard.
Un mot de notre culture et de notre patrimoine avec les journées Limoud. Alors vous connaissez probablement parce que c'est des journées d'études, de réflexion, de rencontres qui sont organisées depuis plusieurs années à présent. Et on retrouvera une journée Limoud, donc une journée d'études, de débat, le dimanche 22 juin, dans le cadre du Festival des Cultures Juives. Et nous sommes en ligne avec l'un des fondateurs de Limoud, qui s'appelle Denis Ktorza. Bonsoir Denis.
Bonsoir Bernard.
Denis, c'est la grande question aujourd'hui. On peut encore débattre? Ça existe encore les gens qui arrivent à débattre?
Écoute, en tout cas, c'est l'objet de Limoud, de pouvoir justement... maintenir du débat, des confrontations d'idées avec des gens qui ne sont pas d'accord entre eux et qui le fassent toujours dans un respect mutuel et dans une écoute surtout mutuelle.
Quels sont les thèmes abordés? De quoi discutent les gens?
Alors l'intérêt à Limoud, c'est que c'est très très diversifié. On va couvrir tous les thèmes qui peuvent intéresser un public juif ou même simplement qui a un intérêt avec pour le fait juif et donc qui va aller comme ça rencontrer des intervenants, aller partager avec eux. L'esprit est toujours d'une grande bienveillance et du partage de ses savoirs.
Quels sont les thèmes donc dimanche 22 juin?
Alors dimanche 22 juin, on va avoir un programme très intéressant qui se décompose de la façon suivante. En fait, on a à chaque tranche horaire, à chaque fois du choix parmi des conférences, des ateliers et donc différents angles d'approche. On va avoir une conférence plénière, table ronde avec des influenceurs qui vont nous parler de tout ce qui concerne l'attitude avec les médias. Donc, qui sera en plus animé par Rudy Saada, avec Ismaël Saïdi, Shani Boualid, Samuel Madar et Yana Grinchboun, donc une table ronde tout à fait passionnante. Vous avez régulièrement des ateliers à chaque tranche horaire, donc on va avoir un atelier sur le parfum, un atelier d'improvisation théâtrale, de la chanson française qui parle de thèmes juifs, et même la mise en scène, la théâtralisation de poèmes de Victor Hugo. Donc ça, c'est pour la partie atelier. On va avoir un retour d'expérience absolument incroyable d'une petite équipe qui a porté un Sefer Torah en haut de l'Everest
pour j'ai entendu parler de cette histoire. Ils sont allés faire un minyan en haut de l'Everest avec un Sefer Torah.
Tout à fait. 6500 mètres. Une équipe de fous, une dizaine, a monté leur Sefer Torah là-haut pour pouvoir passer Shabbat. Donc c'est des retours incroyables. On va avoir aussi des retours sur de l'histoire des Juifs, qu'elle soit du Portugal ou d'Algérie. Et en fait, ce sont des petits récits, donc on se rend compte que la petite histoire va en fait constituer la grande histoire. Donc c'est très intéressant. On va aussi aborder l'éthique juive dans le monde des affaires. Le monde des affaires n'empêche pas l'éthique et c'est ce qu'on va pouvoir dire également. On va parler également un thème qui est sur la judéité au temps de l'Empire romain, donc quelque chose d'un petit peu plus antique.
Où est-ce qu'on peut retrouver tout ce programme? Je pense que c'est évidemment sur le site internet du Festival des Écoles Juives, parce que là, c'est dommage, vous avez un petit temps de parole pour nous présenter un peu tout le temps, je ne peux pas donner tous les ateliers. Donc, on retrouve ça sur le site du Festival des Cultures, du Culture Juive. Denis Ktorza, je sais que ça a rencontré un vrai public, ce Limoud, ces points de rendez-vous que vous donnez aux gens. Comment est-ce que vous expliquez ça? Moi, je crois que aussi depuis le 7 octobre, il y a aussi un besoin de se retrouver, tout simplement, de parler, de discuter. Et je pense que c'est de pire en pire, parce qu'on voit bien le matraquage dont on est l'objet depuis maintenant quelques jours. Les gens, ils veulent se parler.
Alors, très clairement, Limoud a toujours attiré un public intéressé par une vision très, très diverse, mais vous faites bien le souligner, depuis le 7 octobre, ça a réveillé la part juive de chacun qui pouvait de temps en temps être un peu enfouie. Mais certains se sont révélés plus en attente, plus en demande d'événements et de proximité avec leur communauté, se sentant un petit peu isolés dans leur monde, que ce soit leur monde professionnel, leur monde amical, social, culturel, associatif. Ils ont ce besoin de se retrouver dans des communautés bienveillantes où ils vont pouvoir partager leurs émotions, partager leurs ressentis. Et c'est effectivement de plus en plus vrai. On a tous les événements qui ont été organisés depuis le 7 octobre rencontrent une forte affluence.
Donc c'est le dimanche 22 juin, c'est à Paris, c'est où ?
C'est au centre Rachi, donc au siège du Festival de Culture Juive, et le centre du FSJU. Il y a un code promo valable encore jusqu'à ce soir, tout en majuscule Limoud 20 ans, 2-0 ans, qui permet donc de bénéficier d'une réduction, un code promo valable jusqu'à ce soir uniquement. Donc inscrivez-vous vite pour pouvoir en bénéficier.
Limoud, 20 ans, et on va sur le site internet du Festival des Cultures Juives, c'est ça ?
Tout à fait, on peut le trouver sur le site internet, on peut le trouver évidemment sur celui de limoud.org, et on arrive au même endroit pour la billetterie.
Denis Torza, je vous souhaite une belle journée de réflexion, c'est dans peu de temps maintenant, c'est le 22 juin prochain, dans 10 jours, et bonsoir à vous.
Et ben merci Bernard, merci aux éditeurs de Radio Shalom.
Et pour clore cette émission, Roger Carouchi, qui est quand même très bon orateur, qu'on retrouve régulièrement sur cette antenne pour ses interventions au Sénat. Cette fois-ci, il s'exprime devant le chef de la diplomatie française et il dit « Ne donnez pas le sentiment que la France se soumet à l'horreur islamiste ». On l'écoute.
Monsieur le ministre, si j'étais président de la République, je dirais « Champion, mon frère », à moins que je ne fasse allusion au brainwasher. Vous avez vous-même, comme le président de la République d'ailleurs, il y a quelques semaines, dit il y a quatre conditions. La libération de tous les otages, l'éviction complète du Hamas, le renouvellement de l'autorité palestinienne et l'accord avec les États arabes. Et ça me paraissait une position raisonnable parce que c'est une position d'équilibre. Aujourd'hui, aujourd'hui, aucune de ces quatre conditions n'est remplie. Alors, nous dire qu'éventuellement le 18 juin, le chef de l'État s'apprêterait à reconnaître l'État de Palestine, on ne sait pas d'ailleurs avec quel dirigeant, on ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas quel gouvernement, on ne sait pas d'ailleurs si d'ici là, évidemment non, les otages seraient libérés. Non, écoutez, moi je vous écoute avec attention, faites semblant d'écouter. Merci. Je vous dis simplement, le 18 juin 1940, le général de Gaulle a dit non à l'horreur nazie. Ne donnez pas le sentiment, le 18 juin 2025, que la France et le chef de l'État se soumettent à l'horreur islamiste.
Le Sénat et il intervenait devant le chef de la diplomatie française. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. Vous retrouvez tout de suite le journal de Pierre Grandus.
Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM.
94.8 FM.
Message de Hort France. Chers partenaires, experts comptables, entreprises, en versant le solde de votre taxe d'apprentissage aux écoles Hort France, vous soutenez l'innovation, l'éducation et l'avenir de nos étudiants.
Votre contribution fait la différence. Dès le 27 mai, connectez-vous sur la plateforme Soltea et fléchez vers les écoles du réseau Hort France.
Une question ? Appelez-nous au 01 44 17 30 80 ou rendez-vous sur hort-france.fr.
ORT-France.fr.
Merci pour votre engagement.
Chronique des jours de guerre avec Raphaël Jérusalemi, expert, ancien lieutenant-colonel de Tsahal. Le département promotion de la Aliyah de l'OSM vous invite à deux conférences les 15 et 17 juin prochains. Le lieu de ces conférences vous sera communiqué après inscription sur le site de l'OSM www.osmfrance.fr www.osmfrance.fr.
La société iCube vous invite à la 89e édition du Salon de l'immobilier et de l'investissement qui se tiendra à Paris le dimanche 6 juillet prochain à partir de 10h30 au Centre européen du judaïsme, Paris 17e. Vous souhaitez investir, acheter ou simplement en savoir plus sur le marché immobilier? Venez à la rencontre de promoteurs prestigieux, d'agents immobiliers expérimentés, de courtiers avec des solutions adaptées, des avocats pour vous conseiller, des nouveaux programmes de qualité à des prix promotionnels très attractifs et des facilités de paiement inédites. C'est le moment de franchir le pas et d'écrire une nouvelle page de votre avenir. Nous vous attendons nombreux le dimanche 6 juillet à partir de 10h30 au Centre européen du judaïsme Paris 17e.
Best Fenêtre, à votre service depuis 15 ans. Fenêtres, volets, portes en PVC, bois ou alu. La qualité des grandes marques, au meilleur prix, toute l'année. Une nouvelle agence ouvre à Pavillon-sous-Bois, après Paris 20e et les Lilas. De Vigret.